De temps à autre, il est bon et juste de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde ?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais, je lance mes chaussures par-dessus bord car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Bonjour, c'est Gulliver. Aujourd'hui, nous recevons Eugène Ebaudet. Nous nous entretiendrons avec lui de son livre « La rose dans le bus jaune ». Et puis nous élargirons notre débat au cours d'un grand angle à propos de l'esclavage. De nombreuses études ou témoignages ont paru. Et puis nous évoquerons le film de Steve McQueen. Nous terminerons ce sommaire par quelques nouvelles et une toute petite revue de presse. Voilà, donc nous avons le plaisir de recevoir Eugène Ebaudet. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes un personnage très éclectique. Vous êtes d'origine camerounaise, où vous êtes né. Vous êtes...
Nul n'est parfait.
Nobody's perfect. Exactement. Vous êtes venu en France très, très tôt, puisque vous y avez passé le bac, je crois.
Mm-hmm.
Et puis, il faut dire aussi que vous êtes un passionné de foot, et vous l'avez même pratiqué, quasiment professionnel.
C'est vrai, j'ai eu la chance d'être international junior de football au Cameroun, de jouer dans des équipes de première division, la Dynamo, et puis le Dragon de Douala, c'est vous dire.
C'est effrayant, cette expression. Vous avez fait vos... Donc, je disais, vous avez passé le bac, puis vous avez fait des études supérieures... qui vous ont conduit à exercer une fonction dans l'administration territoriale.
Oui, oui, oui.
Titulaire...
J'ai été chef de cabinet, directeur culturel. Oui, oui, oui.
Même élu.
C'est vrai aussi.
Et puis ensuite, vous avez un petit peu changé de trajectoire et c'est l'enseignement qui vous a intéressé. Vous êtes chroniqueur sur France Inter, vous l'êtes toujours auprès de... du Courrier de Genève.
C'est vrai aussi.
Et donc, vous êtes actuellement enseignant.
Mmh, oui, je suis professeur documentaliste au lycée polyvalent de Manosque. L'enseignement, c'est une passion, c'est une vieille passion. Oui.
Vous n'en êtes pas à votre premier livre, puisque c'est le septième d'une longue liste, déjà.
C'est le septième roman, mais il y a des essais.
Il y a aussi des essais sur votre expérience politique, on peut dire.
Oui, oui, oui.
Donc, qui est le journal de mon maire, c'est ça ?
Tout sur mon maire.
Tout sur mon maire.
Rien à voir avec tout sur ma mère.
on voit par là que... On voit par là que l'humour n'est pas absent de votre approche littéraire. Et je termine par une chose très importante, vous êtes chevalier des arts et lettres.
Oui, j'ai peut-être une écriture chevaleresque.
Et vous avez reçu, à propos d'un de vos livres, le prix de l'Académie française, tout de même.
Très intéressant, très intéressant. En plus, c'était sur Silicani, qui est un roman consacré à... au départ de l'Afrique, donc tout ce qui se passe avant l'immigration, parce que j'estimais que l'immigration donne souvent des boutons à un certain nombre de personnes, voire un sujet éruptif et abrasif qui n'est pas pris comme il conviendrait de le prendre. Et donc j'ai voulu proposer une autre lecture de l'immigration en faisant en sorte que les 8 mois qui précédaient mon départ du Cameroun soient revisités et que ces 8 mois soient offerts au lecteur, non pas comme une charge troublante, mais plutôt comme une proposition d'itinéraire dans laquelle on s'apercevrait que celui qui vient nous apporte aussi quelque chose et ne vient pas simplement nous arracher notre pain.
C'est un livre d'ailleurs qui, on s'aperçoit qu'il fait partie d'une sorte de trilogie avec la Divine Colère et la Transmission, un petit peu, non ?
Oui, c'est une trilogie
qui se répondent un petit peu.
Sur la jeunesse africaine, cette fois. Je voulais montrer en trois volets en quoi on pouvait la recevoir, cette jeunesse, la comprendre, et aussi dans quelle matière elle est secouée et traversée par les mêmes soucis que les autres jeunes du monde entier. Il y a comme ça, dans les générations et les classes d'âge, des choses en commun qu'on peut partager, en plus dans un monde qui est très ouvert. Et aujourd'hui, un jeune qui est en Afrique a aussi les mêmes préoccupations d'emploi, de formation, d'identité qu'un autre qui se trouve à Montpellier ou à Manosque. Mmh. Et il y a des choses qu'ils ont en commun. Mais ils partagent aussi l'avenir d'un monde qui n'est pas simplement vu à l'échelle de leur propre individualité, mais aussi qu'il faut pouvoir voir global. Par exemple, actuellement, il y a les Jeux Olympiques à Sochi. Malheureusement, il se produit à deux pas de la Russie des événements dramatiques et douloureux. La jeunesse doit pouvoir s'intéresser au malheur d'autrui parce que c'est aussi son propre malheur. Et un horizon bouché l'est pour tous les êtres. Et donc, je suis assez sensible en tant que sportif, ancien sportif, et je le demeure, au sang qui est en train de couler sur les neiges et de l'Ukraine, mais aussi par ricochet de la Russie.
Alors, je disais tout à l'heure un peu hors micro avec vous, j'avais l'impression que entre ces livres que vous avez écrits et celui-ci dont on va parler, il y avait une sorte de petite rupture, c'est-à-dire que jusqu'à présent, vous étiez vous-même en quelque sorte le narrateur un petit peu de ces histoires. Là, vous avez choisi un personnage dans lequel vous vous êtes glissé, puisque ce livre est raconté à la première personne, mais la première personne, c'est Rosa Parks.
Oui.
Pourquoi ce choix ?
D'abord, je veux vous remercier de m'inviter en février, qui est un mois important, puisque Rosa Parks est née le 4 février 1913, il y a plus d'un siècle. Donc, on commence là le second centenaire de la vie de Rosa Parks, même si elle est déjà morte. Elle a marqué son existence et les nôtres aussi d'une empreinte très forte. Et donc, en février, vous êtes la première radio à m'inviter, j'y suis très sensible. Et cette femme donc, qui est née à Tuskegee, en Alabama, dans un état extrêmement, comment dirais-je...
Plus que ségrégationniste, presque.
Oui, raciste.
Le Ku Klux Klan.
Oui, avec une poigne de fer, le Ku Klux Klan, qui, dans les années 50, revenait aux tristes affaires, à une actualité sanglante et épouvantable. Eh bien, Rosa Parks a eu à croiser le fer, si je puis dire, avec cette organisation. Et pas seulement celle-ci, tout un système juridique qui privait les Noirs des droits fondamentaux que la Constitution leur reconnaissait par ailleurs. Et avec une force, une volonté de faire avec simplement des mots accessibles à tout le monde, comme celui de « non, je ne me lèverai pas », elle a modifié le cours des choses. Et j'ai donc souhaité, c'est vrai, vous avez raison, essayer de rentrer dans la peau d'un personnage et d'une femme pour essayer de comprendre ce qui avait pu se passer et comment avait-elle réussi à transformer un simple nom en une victoire pour tous.
Il y a une phrase qui est assez significative de son attitude. Elle dit pour rester debout, je suis restée assise.
Je suis restée assise pour tenir debout. Tenir debout, et ça montre dans cette espèce d'oxymore tout le renversement de situation qu'elle a pu produire en ne cédant pas sa place à un blanc. Mais je pense aussi que j'ai écrit ce livre pour essayer de remplir les blancs de l'histoire. Les vides de l'histoire, il y en avait un qui me paraissait monumental quand j'ai commencé à étudier cette question, c'est la disparition dans l'histoire de ce blanc qui voulait s'asseoir à la place de Rosa Parks. le 1er décembre 1955. C'est le début de l'histoire. Et ce blanc, personne n'en a parlé. Et donc ici, dans ce roman, je pense que c'est l'une des nouveautés. C'est l'une des choses que, quand je vais aux États-Unis, on est toujours très surpris de savoir que j'ai pu enquêter sur ce chaînon manquant, cette histoire de ce blanc qui voulait s'asseoir, parce qu'il représentait non pas simplement une couleur, non pas simplement un visage autre, mais c'était l'ensemble des vides de l'Amérique, l'ensemble des incompatibilités avec une société moderne qu'il représentait. J'ai voulu savoir qui c'était.
Alors, ce qui est amusant, c'est que la manière que vous avez de raconter l'événement, on a l'impression que ça s'est passé presque naturellement. C'est-à-dire que cette femme qui prend ce bus depuis très longtemps, d'ailleurs, dans le processus narratif, ce n'est qu'à la page 60 ou 59 que véritablement vous racontez l'événement. Alors que depuis la première page, on est dans l'annonce que ça va se passer. Mais avec une série de flashbacks, on revisite un peu la vie de cette femme. Ce qui fait que lorsque l'événement se produit lui-même, il apparaît presque comme si naturellement, banalement, ça allait se dérouler. Et ce personnage dont vous parlez, ce blanc, il est aussi très, très banal. Au point même qu'il lui fait au moment où elle est arrêtée, il lui fait des signes comme presque pour s'excuser de ce qui s'est passé.
Oui. Je pense qu'il fallait à la fois montrer ce qui se passait dans la vie intime de Rosa Parks, lui restituer toute son humanité. Il ne s'agit pas simplement d'être assise et de dire « non, je ne veux pas me lever, tout le monde peut le faire ». Mais il fallait lui restituer toute sa condition humaine, toute sa condition aussi de femme, toute sa condition de citoyenne mise à part. De citoyenne de banlieue mise au banc, parce qu'elle n'habitait pas au cœur de Montgomery, elle habitait à l'ouest, au sud-ouest de Montgomery, dans un nouveau lotissement qui était quand même un progrès sur le plan social hein, pour elle. C'était un nouveau lotissement que j'ai visité en briques rouges. Et d'ailleurs, quand je suis entré dans la maison de Rosa Parks, avant que le livre ne paraisse, je l'avais déjà rendu à mon éditeur, mon admirable éditeur qui m'a soutenu dans cette affaire, eh bien, Gallimard. Et bien, quand je suis rentré dans la maison de Rosa Parks, au retour de... J'avais déjà rendu le manuscrit, je suis revenu en novembre. La première chose, c'était d'appeler mon éditeur, de lui dire que j'ai besoin de rectifier un certain nombre de choses. Parce que j'avais pu accéder enfin à la maison de Rosa Parks. Mes différentes autres tentatives s'étaient soldées par des échecs. Et ça a été vraiment limite. Et je crois que d'avoir respiré l'odeur de ses meubles, d'être entré dans la chambre où elle a vécu, au salon où elle recevait des gens... J'ai mieux compris les paniques ou les sensations d'horreur qu'elle pouvait ressentir, ne serait-ce qu'en voyant l'escalier très raide qui menait au premier étage. Et je me suis dit, mais elle a dû se fouler la cheville en descendant les marches pour aller répondre au téléphone. Le téléphone qui n'arrêtait pas de sonner, même pendant la nuit. Simplement, ce téléphone sonnait pour... à la fois des menaces, mais aussi il y avait l'organisation du boycott. Donc, ça a été une vie épouvantable. Et puis, il fallait, c'est vrai qu'avant d'arriver à l'événement lui-même, expliquer aussi que Rosa Parks est une femme qui est rentrée dans une organisation militante noire, NAACP, l'Association nationale pour l'amélioration de la condition des hommes de couleur, qui avait été fondée par des Juifs et des Noirs, donc par une société biraciale qui voulait en finir avec la ségrégation aux États-Unis. Et elle y est rentrée par son mari, Raymond Parks. Elle n'était pas très militante au départ, mais son mari l'était. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le mari était celui qui va devenir plutôt réticent, qui va avoir peur, qui va se dire « mais on s'engage dans quelque chose d'énorme, on va être écrasé ». Et ce pauvre homme est mort d'ailleurs plus tard d'un cancer qu'il a développé forcément pendant ces périodes brûlantes.
Alors, je crois que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce personnage, Rosa Parks, maintenant, on imagine une vieille dame souvent, alors que là, c'est une jeune femme, elle a 42 ans.
Oui, elle a 42 ans, elle est jeune, mais elle sent aussi en elle que quelque chose bascule dans son métabolisme. Elle voulait avoir un enfant. Elle sent que les choses vont lui échapper et que probablement elle ne l'aura pas. Et cette idée qu'elle ne puisse plus pas enfanter, eh ben, c'est l'hypothèse que j'aimais, va la pousser à enfanter autre chose, bien autre chose qu'un être humain, une nouvelle Amérique.
Elle va remplir sa vie autrement.
Oui.
Alors, c'est une jeune femme et le livre est émaillé tout au long de références musicales. C'est assez rare, je trouve, dans la littérature, de trouver comme ça, y compris des morceaux très précis
qui
annotent et qui donnent un peu une ambiance sonore au livre.
Bien sûr, et les musiciens ont été partie prenante de la lutte pour les droits civiques. Et ces musiciens que j'ai essayé de restituer dans le livre, il y en a beaucoup, hein, donc ils me pardonnent, parce qu'il y a Maryam Anderson, que je n'ai pas cité, et qui a été formidable aussi. Mais Nina Simone ou... Billie Holiday avec sa chanson Strange Fruits, écrite d'ailleurs par un juif. Il faut rappeler, parce que des fois les concurrences mémorielles sont épouvantables ici, alors que là-bas, il y a eu des juifs et noirs qui ont été coalisés pour renverser un vieil ordre.
Alors, précisément, on va faire une petite pause en écoutant la première référence musicale du livre, C'est si bon.
C'est si bon. Lovers say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling, c'est si bon.
Thank you. complètement inusable.
Absolument.
Cette musique-là.
Oui, oui, oui.
Alors, il y a un deuxième grand personnage quand même dans votre livre, qui est pas en creux, mais en plein, mais c'est Martin Luther King quand même. Qui est on a l'impression que c'est là que, au moment de cet événement, que commence un peu son périple qui va le mener jusqu'à, d'ailleurs vous y faites allusion, à la fameuse phrase « j'ai fait un rêve », etc.
C'est sa naissance publique, alors qu'il avait déjà une naissance, théologique, et une mission qu'il exerçait comme pasteur à l'église baptiste de Dexter Avenue à Montgomery. Il venait d'y être nommé 9 mois auparavant. 9 mois, c'est le temps donc d'une gestation. Mm-hmm. Et d'ailleurs, pendant ces 9 mois, avait été conçue sa première fille. Et sa première fille venait de naître. Elle avait 15 jours quand le boycott a été déclenché. Et donc, lorsque Rosa est arrêtée le jeudi 1er décembre 1955, il y a quelqu'un qui assiste à cette arrestation dans le bus et qui téléphone donc à Edgar Nixon, le président de l'Association pour l'amélioration de la condition des hommes de couleur. Et ce Nixon appelle Abernathy, qui est aussi un jeune pasteur de 29 ans.
Il faudra aussi parler de lui, d'ailleurs.
Oui, oui, Abernathy. Et c'est, ce pasteur lui dit, mais il faudrait que tu appelles Martin Luther King, qui est dans l'église, qui est le pasteur de l'église centrale, où la communauté noire, disons, la bourgeoisie noire se retrouve. Il lui dit, il faut que tu l'appelles pour qu'on se réunisse chez lui et qu'on décide de la suite des événements. Alors quand Nixon appelle Martin Luther King, celui-ci est un peu... Il ne réagit pas tout de suite avec enthousiasme. Il lui pose des questions, il hésite. Et cette hésitation lui sera reprochée. Mais ce sera pour les petites querelles, parce qu'une fois que Martin Luther King a compris quels sont les enjeux, puisque lui-même militait aussi pour l'amélioration de la condition des hommes noirs. Il voulait qu'il s'inscrive dans les listes électorales. Il n'arrêtait pas dans ses prêches de réclamer cette évolution. Eh bien, une fois qu'il a bien compris la situation, il s'est engagé à fond. Et d'ailleurs, ce ne sera pas de son fait qu'il deviendra le président de l'association créée pour soutenir le combat de Rosa Parks, parce que arrêtée, elle est libérée sous caution, elle doit être jugée le lundi 5 décembre, et pour cela, pour la soutenir, l'idée du boycott est donc déclenchée dès le lendemain dans l'église de Martin Luther King. Et il y a une autre personne qui va être majeure dans ce mouvement, c'est une femme qui est professeure à l'université et qui est une amie de Rosa Parks, et elle va vraiment, Joanne Robinson, elle va être un maillon capital, c'est une juive aussi, qui va être un maillon capital du succès de ce boycott, parce que c'est elle qui va rédiger le tract, qui sera diffusé à des centaines de milliers d'exemplaires pour appeler les Montgomery à boycotter les bus. Elle va écrire dans le tract, une femme noire a été arrêtée dans le bus parce qu'elle n'a pas cédé sa place. C'est une injure qui est commise à tout homme qui réclame l'égalité des droits, et il ne faut plus monter dans les bus de la honte. Ne montez pas dans ces bus pour aller au travail, ni montez pas pour aller à l'école, ni montez pas pour aller faire vos courses. Désertez les bus de la honte à Montgomery. Et donc, cet appel est entendu et relayé dans les églises tout le week-end. Et ensuite, donc, est créée l'association pour soutenir Rosa Parks. Elle est créée formellement le 5 décembre, après un verdict qui est défavorable à Rosa Parks, qui la condamne.
Oui, qui la condamne.
Et le soir même, après le verdict, il y a une réunion intermédiaire des leaders noirs et des blancs qui sont pour abattre le vieux système. on les appelait les blancs libéraux, dans lesquels il y avait beaucoup de juifs, eh bien, l'association qui est créée, la MIA, si vous voulez, Montgomery Improvement Association, l'association pour le programme Montgomery, eh bien, c'est un autre industriel qui décide que parmi toutes les personnes susceptibles d'être à la tête de cette association, il y en a une qui lui paraît une personnalité forte et d'avenir. Il faut se tourner vers l'avenir et plus vers le passé, ce qui met en colère les Noirs qui voulaient absolument se montrer, qui étaient les caciques, les notables de Montgomery. Et parmi eux, il y avait évidemment Nixon et Lewis, le président de cet industriel qui installe Martin Luther King à la tête de l'association, dit qui est contre le fait que Martin Luther King soit le président de cette association. Comme personne ne pouvait s'opposer à lui, personne ne dit qu'il est contre. Et qui s'abstient, personne ne s'abstient. Donc Martin Luther King est président. C'est comme ça qu'il procède pour organiser le staff de cette association qui va défendre et accompagner Rosa Parks et qui va être une association extrêmement organisée. Et là, Luther King va montrer ses talents d'organisateur et surtout ses talents de tribun. Et sa première déclaration, personne ne pensait qu'il prendrait la parole. Le soir même, lorsqu'il est élu président dans l'après-midi, le soir, il y a un grand meeting à l'église de Hall Street à Montgomery. Il prend la parole et il dit « Nous sommes réunis ce soir pour une affaire de la plus haute importance. »
Alors, effectivement, c'était pas gagné d'avance quand même, cette affaire, parce qu'il y avait déjà eu un précédent.
Oui, il y avait eu un précédent à Bâton Rouge, un boycott des bus, parce qu'il y avait eu une altercation, un fait presque similaire. Et le pasteur Jamison, qui avait participé au boycott des bus de Bâton Rouge, était présent à Montgomery. Et il a été un conseiller, un consultant, comme on dirait aujourd'hui, extrêmement précieux pour éviter aux gens de Montgomery les erreurs commises à Bâton Rouge en Louisiane.
Alors à Montgomery même, une jeune fille avait subi ce type de vexation. Et on va la retrouver plus tard parce qu'elle va reporter plainte au moment de l'affaire Rosa Parks.
Oui, oui.
Donc qui s'appelle Claudette Calvin.
Calvin, yes. Claudette Calvin est une jeune fille qui a 15 ans et qui, d'ailleurs, le jour où elle est arrêtée, c'était autour du mois de mars de la même année, elle revenait d'un cours d'éducation civique. Et donc, l'instruction civique sert à ça. On dit tout le monde est égal, etc. La Constitution promet les mêmes droits à tous les êtres, quelle que soit leur race, leur religion, etc., leurs conditions sociales. Et elle revient de ce cours, elle est dans le bus. Et on lui dit de céder sa place à un blanc. Elle dit non, elle refuse, puisqu'elle est encore habitée par le cours que l'école lui a dispensé. Elle est arrêtée, bousculée, évacuée du bus Manu Militari. Et elle porte plainte. Elle porte plainte, mais cette plainte ne va pas aboutir. Parce que les avocats adverses vont trouver que son père est alcoolique et puis elle-même, elle est tombée entre-temps enceinte et on ne sait pas qui est le père, voyez.
Voilà, donc pour des raisons morales, l'affaire est enterrée.
Absolument, mais elle va revenir.
Et on va la retrouver parmi les gens qui vont mettre en cause, justement, elles seront quatre,
oui.
À remettre en cause cette idée de refus de... Enfin, cette manière de placer les gens dans le bus.
Alors, oui, parce qu'il y avait eu d'autres faits similaires avant.
Voilà,
et donc,
voilà.
Les quatre qui vont revenir, Marie-Louise Smith et d'autres, c'est parce que la procédure concernant Rosa Parks elle-même et son litige avec l'administration, la Cerebus Line et l'administration de l'État de l'Alabama, puisque les lois de l'État de l'Alabama prévoyaient donc cette ségrégation dans les bus. Et la plainte déposée était que ces lois étaient contraires à la Constitution.
Voilà, anticonstitutionnelles.
Et comme la procédure concernant Rosa s'éteint, parce qu'elle est condamnée doublement en appel, etc., donc la procédure s'éteint. Il fallait donc réactiver les vieux dossiers qui avaient été laissés en plan. Et cette nouvelle plainte donc aidé par la Montgomery Improvement Association et l'Association nationale pour l'amélioration de la condition des Noirs, et qui donc pousse ces plaintes à émerger et les défend, parce que ça coûtait aussi beaucoup d'argent. Hein. Et donc, ces quatre filles vont témoigner courageusement. Il y aura une cinquième qui, elle, va s'y défiler en disant « Oh là là, elle a trop peur, lui, du Ku Klux Klan et de la puissance de l'administration communale, la puissance de l'administration d'État. Non, 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 elle ne veut pas, elle tremblait de toutes parts, donc elle se retire. » Mais les quatre vont aboutir. La plainte des quatre va aboutir, finalement.
Voilà, la plainte sera parallèle au boycott.
Oui, 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 le boycott va continuer.
Voilà, et un peu moins d'une année, d'ailleurs.
Plus d'une année, 382 jours.
Un peu plus d'une année.
Oui.
Ce qui est compliqué, parce que ne pas prendre le bus pour des gens qui ont des longs trajets à faire, Rosa Parks perd son travail, elle est renvoyée. Et donc, il y a toute une organisation qui se met en route, et probablement c'est ça qui en a fait le succès, pour pallier le fait que les gens ne prennent plus le bus.
Oui, Rosa est renvoyée de son travail, non pas parce qu'elle ne pouvait pas prendre le bus. Il y avait l'organisation dont vous parlez qui était déjà en place, un système de transport parallèle. Et dans ce système de transport parallèle, il faut d'ailleurs dire que Jamison avait été un très bon conseiller et le pasteur Martin Luther King l'avait très bien écouté en disant « il faut absolument que nous soyons extrêmement bien organisés sur le plan de déplacement, sinon ça ne réussira pas. Mm-hmm. Sinon les Noirs vont repartir dans les bus de la honte. » Donc il fallait soutenir la création d'un réseau de transport. Ce réseau de transport était abondé par les industriels noirs qui avaient des taxis et même ceux qui avaient comme Rufus Lewis, qui était donc le père, entre guillemets, politique de Martin Luther King. Rufus Lewis avait mis y compris ses corbillards dans le... Mais il les avait repeints, rassurez-vous. Parce que quand il fait sa proposition de mettre ses corbillards, les gens sont un peu inquiets. On ne va pas monter dans les corbillards, enfin, ça nous fait trop peur. Donc il avait dû repeindre ses corbillards, mais il avait mis ses voitures à disposition du réseau de transport. Et il y avait les destinations étaient bien enregistrées. Les points de départ des bus et d'arrivée, etc. Oui, il y avait, je crois, autour de 33 points pour ces réseaux de transport. Et on retrouvera donc comme chauffeur Joan Robinson, qui était professeure d'anglais de l'université de Montgomery, mais elle-même va transporter les gens comme chauffeur. Elle recevra évidemment les attaques du Ku Klux Klan, les lettres de menace, elle essuiera même des tirs dans ses voitures. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont s'organiser comme bénévoles pour que ce réseau de transport réussisse. Et puis Rosa, elle est licenciée. Parce que son patron,
mauvais exemple.
Son patron ne supporte pas la Montgomery Fair. D'ailleurs, je raconte le contremaître est terrible. Le contremaître a réellement existé et lui a mené une vie épouvantable. Et il réussit à avoir sa tête. Et le patron qui voyait quand même Rosa Parks, il disait « mais c'est une femme qui fait admirablement son travail, j'ai rien à lui reprocher ». Et le contremaître dit « oui, vous n'avez rien à lui reprocher, mais elle nous cause du tort parce que leurs boycotts vont aussi fragiliser nos affaires ».
Et ils décident de fermer l'atelier pour...
Oui.
Et ils déplacent toutes les autres ouvrières.
Absolument.
Et elle a cette femme avait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Elle a cette préscience de ne pas envenimer les choses pour ne pas mettre en péril ses collègues de travail.
Oui, pour ses collègues de travail qui étaient aussi fragilisés parce que certaines, la plupart la soutenaient. Donc elle comprenait bien qu'il fallait qu'elle puisse continuer à vivre. Et avec Luther King, d'ailleurs, on va essayer de les recaser dans les églises. Et Rosa Parks elle-même, ce sont les églises baptistes, les églises protestantes, les églises catholiques étaient coalisées. Hein. Il n'y en avait pas beaucoup d'églises catholiques, mais puisque c'est le protestantisme qui était le plus...
Objectif.
qui avait les effectifs, les églises les plus grandes, eh bien, toutes ces églises vont jouer un rôle à la fois pour recaser les salariés et pour soutenir Rosa Parks, parce qu'aucune entreprise dirigée par un blanc ne voulait l'embaucher. Mmh. Il y avait une espèce de blacklist, comme ça, où toutes ces demandes étaient rejetées.
Alors l'Alabama, c'est un État assez épouvantable sur le plan de la ségrégation. C'est un État où sévit le Ku Klux Klan, qui a malheureusement souvent procédé à des exécutions sommaires et notamment à des pendaisons. Eh bien, ce sont ces pendaisons qu'évoque dans un chant poignant Billie Holiday.
Étrange, chanté par Billie Holiday. Fruit étrange, un texte écrit par Abel Meropol, un enseignant juif, né en 1903 et mort en 1986. Il écrit pour la postérité contre les pendaisons qu'on appelait Nikki's Parties. Et cet enseignant a donc écrit Strange Fruit avant de rencontrer Billie Holiday et de l'autoriser à chanter des vers que nous venons d'entendre, et qui disent ceci, fruit étrange, les arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur leurs feuilles et du sang sur leurs racines, des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud, un fruit étrange suspendu au peuplier, scène pastorale du vaillant sud, les yeux révulsés, la bouche déformée, le parfum des magnolias doux et printaniers, puis l'odeur soudaine de la chair qui brûle. Voici un fruit que les corbeaux picorent, que la pluie fait pousser, que le vent assèche, que le soleil fait mûrir, que l'arbre fait tomber. Voici une bien étrange et amère récolte.
Ce qui est intéressant, c'est, dans votre livre, c'est de voir que les populations juives sont très associées à cette action de boycott, à l'action de résistance générale vis-à-vis de la ségrégation.
Eh bien, parce qu'elles
avaient... Elles le subissaient aussi.
Elles avaient vécu... nous sommes en 55.
Mm-hmm,
et oui, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. C'est après aussi un nomadisme qui n'est pas l'histoire du peuple juif en rencontre. Et l'expérience de la ségrégation, l'expérience... et aussi des malheurs de la Shoah, etc., a fait en sorte que la coalition puisse avoir lieu. Et moi, je comprends que dans la tragédie que les Noirs vivaient à l'époque, les Juifs se soient sentis concernés.
Oui. Mmh. Alors, il y a un personnage extrêmement important du XXe siècle que vous évoquez et qui semble avoir influencé Martin Luther King, c'est Gandhi.
Oui, parce que la non-violence, Gandhi, c'est aussi quelques messages un peu tristes à Hitler, mais la non-violence est pour Martin Luther King la clé du succès. Il ne faut pas répondre...
Et pourtant, autour, il y a des gens qui ont envie d'en découdre.
Hein. Mais bien sûr, oui, il y a des tensions. Mmh. Et on lui dit, c'est trop visiter le domaine de la faiblesse que de ne pas rendre coup pour coup et œil pour œil, dent pour dent. Lui, il rompt un peu peut-être avec les anciennes écritures. Et pour ne pas rendre les coups, il dit non, dans une société moderne, ce n'est pas par l'addition des malheurs qu'on va le chasser, qu'on va le repousser. C'est plutôt en opposant face aux brutalités, face aux violences, une autre position, une autre posture, un autre humanisme. Et lui-même va d'ailleurs en rendre compte. Souvent, il était attaqué, sa maison a été...
Brûlé
Oui, brûlé. Il y a une bombe, d'ailleurs.
Une bombe qui a mis le feu.
Oui, en février, à Montgomery, lorsqu'il est devenu président, que c'est de l'association pour défendre Rosa Parks. Et ses prêches étaient de plus en plus écoutés, suivis. Sa capacité à mobiliser, son charisme inquiétait déjà. Il ne va pas simplement inquiéter le Ku Klux Klan. On sait que Edgar Hoover va prendre le relais, va le mettre sur écoute, va même faire pire que cela,
oui.
Envoyer un certain nombre de messages à la femme, à Coretta Scott King, pour dire, voyez, votre épouvantable mari qui vous trompe et qui il va être enregistré, etc. Bon, il empêche donc que Martin Luther King, malgré tout ce contexte, deviendra une personnalité à la fois captivante, mais sensible aussi au fait que ce n'est pas en rendant coup pour coup qu'on triomphera, parce qu'il y a aussi une éthique sur ce combat. Et il dit, notre victoire tiendra à la fois sur une éthique, sur une morale et sur une résolution à ne pas accepter un ordre unique. Donc, nous tiendrons par la non-violence, comme Gandhi l'a fait en Afrique du Sud, et il avait lui-même essuyé aussi dans un train le phénomène de la ségrégation, puisqu'il avait été jeté d'un train parce qu'il était dans la première classe, alors qu'il avait payé son billet. Donc, c'est aussi dans une entreprise de transport que la non-violence concept commence, et donc avec Gandhi et Martin Luther King va suivre ses préceptes.
Dans le livre, presque pas tout à fait la fin, mais presque, vous semblez dire que Martin Luther King, en tout cas son mouvement, sa stratégie a perdu de son influence au profit de Malcolm X.
Oui.
Et donc au profit d'une lutte beaucoup plus dure, voire violente.
Eh bien, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'il y avait les revendications, les sittings, les meetings, et que la brutalité policière s'exerçait en face, eh bien, certains groupes estimaient que les succès de l'opération pacifique, le pacifisme ne suffisait pas. Et que les choses étaient trop lentes. Vous savez, quand vous revendiquez des droits, que cela fait des siècles qu'ils vous sont refusés, eh bien, souvent, le recours à la force semble être l'ultime moyen pour pousser l'adversaire à arriver aux concessions que vous espérez. Mmh. Ça a été, par exemple, le cas en Afrique du Sud. Mandela, qui est aussi un personnage que va rencontrer Rosa Parks.
Absolument, oui.
Mandela était aussi sur la même ligne avant de renoncer à cette ligne pacifiste. Parce qu'il avait été convaincu que s'il ne recourait pas à la force, eh bien, le système en Afrique du Sud perdurerait. Et Mandela change aussi d'horizon. Et donc, il était normal que dans une société quand même où les armes sont constitutionnellement garanties, que le passage à la force, au recours à la force armée, et donc de répondre coup par coup, soit franchi. Pour Malcolm X, même si, c'est vrai, Rosa Parks le dit, parce qu'elle rencontre Malcolm X oui. à Detroit, elle le rencontre un peu avant sa mort. Elle le rencontre et elle a une conversation avec lui. Et il semble être sur une voie moins rageuse, moins éruptive. Il est sur un chemin plutôt d'un compromis. Il cherche à retrouver ceux qui sont déjà sur l'axe pacifiste. Mais ça, malheureusement, il n'aura pas le temps de pouvoir démontrer le passage d'un camp à un autre. Mais Rosa Parks dit qu'elle le voyait sur un chemin moins abrasif.
Alors Rosa Parks, elle finira sa vie en travaillant au Parlement américain. En travaillant pour un élu.
Oui, elle va être ce que nous appelons ici attachée parlementaire. Mmh. Et c'était d'ailleurs assez cocasse parce que John Conyers, congressman, comme on dit là-bas, qui était donc député de l'État de Detroit, l'avait engagé dans son cabinet. Et souvent, les gens qui demandaient des rendez-vous dans le cabinet venait davantage voir Rosa Parks
que le représentant.
Oui, le député. Mais il n'en était pas pour autant dépité. Il comprenait que Rosa Parks avait atteint une stature autre, qu'elle était devenue la mère de la Nouvelle-Amérique. Gone home now. Gone home now. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. God damn. Alabama's got me so upset. California's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. God damn. Can't you see it? I know you can feel it. It's all in the air. I can't stand this pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's got me so upset, and Tennessee's made me lose my rest. Everybody knows about Mississippi. God damn.
Voilà, autre référence du livre, Nina Simone, avec ce Mississippi Goobam qui est assez tonique.
Oui, c'est aussi une forme de colère, comme ça, cri de colère qu'elle pousse, maudit soit ce pays, ce Mississippi, où quand même hein, les tensions raciales étaient incroyables. Mm. Et donc tout ça l'obsédait, et elle a poussé ce grand cri. Et Nina Simone allait au meeting de King, de Rosa Parks. Elle était là à la fin du meeting pour chanter, tout comme Harry Belafonte, tout comme plusieurs autres vedettes. Sinatra était là, par exemple, quand Martin Luther King délivre son « I have a dream mm. ». Il y avait beaucoup de musiciens qui ont œuvré pour que le combat soit victorieux.
Grand angle.
Voilà, alors l'actualité nous amène à prolonger un peu cette conversation avec la parution de nombreux récits liés à l'esclavage. Dans votre livre d'ailleurs, il en est pas mal question, y compris l'esclavage d'Afrique vers les États-Unis. Et donc Le Monde, il y a quelques numéros, a sorti une série d'articles sur ces récits. Alors il y a évidemment le récit de Solomon Northup qui sert de référence, de scénario de base au film 12 ans d'esclavage, dont on parlera tout à l'heure. Il y a également le récit de William Wells Brown, esclave fugitif écrit par lui-même, qui est paru donc tout récemment, en 2013. Être esclave Afrique-Amérique, 15e, 19e siècle. Alors ça, c'est une étude de Catherine Cochry-Vidrovitch, qui est parue à La Découverte, toujours en 2013. Et alors, un livre assez étonnant dont Le Monde donne des extraits et puis une interview de son auteur. Il s'agit de Marcus Rediker. Ça s'appelle « À bord du négrier, une histoire atlantique de la traite ». Alors, ce qui est assez amusant, c'est que ce scientifique a donc essayé d'étudier le phénomène de l'esclavage à travers le négrier, à travers le bateau. Et alors, c'est assez étonnant parce qu'il renouvelle un petit peu la théorie, parce qu'il dit, au fond, c'est dans le bateau que tout se passe. C'est-à-dire que les Noirs qui montent dans le bateau, qui viennent d'Afrique, ils sont de différentes ethnies, de différentes tribus, et donc ils ne sont pas solidaires. À partir du moment où ils entrent dans le bateau, ils deviennent Noirs. Point. Et de la même façon, les matelots, les officiers qui sont recrutés un peu partout, en Angleterre, en France, même en Espagne, ils ne parlent pas la même langue, ils se retrouvent sur le bateau, et à partir du moment où ils sont sur le bateau, ils ne sont plus anglais, français ou espagnol, mais ils sont les Blancs. Et donc c'est dès l'appareillage du bateau du négrier que s'instaure un rapport haut et bas, puisque les Blancs sont sur le pont, et les Noirs sont dans la cale, dans la soute. Et donc que l'opposition raciale se crée et se constitue. C'est assez passionnant et ça renouvelle complètement l'origine de ce phénomène. D'ailleurs, il dit, en s'en émouvant, que la violence de l'esclavage n'a pas encore été saisie dans toute son ampleur. C'est, je crois, un livre tout à fait intéressant, donc paru à La Découverte, « Être esclave, Afrique, Amérique, 15e, 19e siècle ». Une lecture que je vous recommande.
Je voudrais vous demander de quelle région vous venez.
Je suis originaire du Canada. Vous vous demandez où c'est, j'imagine.
Oh, je sais où se trouve le Canada. J'y suis allé moi-même.
C'est beaucoup de voyages pour un esclave.
Solomon Northup est un grand virtuose du violon.
Je suis né libre. J'ai vécu à New York avec ma famille.
Tu vas sage avec ta mère.
Avant d'être trahi.
À Solomon.
Enlevé et vendu comme esclave.
T'as retrouvé la santé ?
Je m'appelle Solomon Northup. Je suis un homme libre. Et vous n'avez aucun droit de me séquestrer.
T'es pas un homme libre.
T'es rien de plus qu'un clandestin évadé de Géorgie.
Went down to the river Jordan.
Et le serviteur
qui n'obéit pas à son seigneur,
celui-là sera battu par le fouet de nombreuses fois. Parole de danger. La condition de vos travailleurs, elle est abjecte.
C'est ma propriété. Vous l'énoncez avec fierté.
J'énonce un fait.
Parle !
Un homme a le droit de disposer de sa propriété.
Reviens ici.
Maître.
Donnez-le revenir !
Il y a même pas 10 jours, j'étais avec ma famille, chez moi. Et toi, tu me dis de renoncer à tout.
Si tu tiens à la vie, ne fais et ne dis que le strict minimum.
Je ne veux pas survivre.
Voilà, donc un écho à notre à ces nouvelles études sur l'esclavage, le film de Steve McQueen, rien à voir avec le fameux comédien, qui est un réalisateur anglais qui vient de sortir 12 ans d'esclavage et qui donc raconte à partir de l'expérience d'un Nord-Américain qui est enlevé, qui est donc libre au départ, qui est enlevé et qui est conduit dans le sud des États-Unis. Et qui passe pour un fugitif. Et donc, il n'arrive pas à faire commander. Et il a une phrase qui est extraordinaire, parce que tous les autres esclaves lui disent « Mais ne dis rien, ne fais rien, sinon il va t'arriver des malheurs. Mmh. » Et il a cette phrase, il dit « Je ne veux pas survivre, je veux vivre. » Voilà, donc c'est en écho à notre conversation, je pense que c'était important d'appeler à voir ce film, qui évidemment... par certains côtés, correspond au canevas un petit peu hollywoodien, mais qui quand même a le mérite de...
Donner la parole au...
De le voir à travers l'expérience d'un esclave lui-même.
C'est ça. Rockabilly Jazz presenting you Sweet Mother.
Gulliver, la revue de presse.
Je n'ai jamais débattu avec Nancy.
Parfois, l'angoisse plaque ses robes de bure entre deux mains et toi. Monsieur Alain adore ça.
Voilà, le morceau qu'on écoutait juste avant le jingle de la revue de presse, c'était un morceau que vous m'aviez demandé.
Oui, c'est un hommage à toutes les mamans, chanté par le prince Nico Mbarga, un musicien nigérian, camerouno-nigérian, donc c'est aussi une bonne synthèse pour l'Afrique. Et il chante vraiment un hommage à toutes les mamans, donc c'était aussi un hommage à Rosa Parks. Et je voulais aussi signaler qu'il y a quand même une grande dame, Joan Baez, qui était aussi au mouvement des droits civiques, qui a soutenu Rosa Parks, Martin Luther King et leur combat, et qui a chanté l'hymne des droits civiques, We Shall Overcome, We Shall Overcome, We Shall Overcome One Day. Oh, deep in my heart, I still believe We Shall Overcome One Day.
Et bravo, ils ont vaincu. Bravo. Bon, alors, pour finir, quelques nouvelles très vite, très très vite. Ce soir, donc, vous pouvez, à la salle Pétrarque, écouter la première des conférences qui ouvre la thématique de la comédie du livre, qui est consacrée aux littératures nordiques, avec le Kalevala, qui est un petit peu le livre fondateur des littératures finnoises. Et donc, c'est le traducteur de ce texte, Gabriel Rebourcé, qui donnera une conférence à 19h, salle Pétrarque. Demain, à la FNAC, vous pourrez écouter le prix Goncourt des lycéens, et puisque Sorge Chalandon en sera l'invité à 17h30. Et Sorge Chalandon, que nous retrouverons la semaine prochaine dans notre émission. Voilà. Et puis pour finir, je vous signale que c'est bientôt le printemps des poètes, mais nous y reviendrons la semaine prochaine. Ben voilà, c'est fini, Gulliver. Ainsi s'achève cette émission. Qui était réalisé par Bruno Bertrand. Vous pouvez retrouver l'émission dans son intégralité en podcast sur le site de www.divergence-fm.org et éventuellement la réécouter, la télécharger, faire tout ce que vous voulez avec. À la semaine prochaine.
De temps à autre, il est bon et juste
de conduire à la rivière la langue française.
Les incidents avec les chiens se multipliaient. Un autre jour, par exemple, on tomba sur un corps de pachyderme qui reposait là depuis va savoir quand.
Cette autre femme au visage doux, enfantin, aux yeux humides et profonds, au front haut et pur, cette femme vivante, dois-je la laisser dans son monde ?
Au commencement, l'œil visita la moelle et je naquis. Un sexe émergea à l'opposé de l'œil pour regarder le temps.
Île où l'on ne descendra jamais. Je lance mes chaussures par-dessus bord, car je voudrais bien aller jusqu'à vous.
Voilà, il me reste quand même à remercier Eugène et Baudet pour nous avoir rendu visite.
Merci.
Et rappeler La Rose dans le bus jaune, publié chez Gallimard dans la collection Continent Noir.
Super.
Dans toutes les bonnes librairies.